Merci Françoise pour avoir bouclé les, comme on l'espérait d'ailleurs, les, avec Pastré finalement, en revenant à l'intervention du premier jour. Alors, on a un petit moment pour te poser des questions, peut-être te demander davantage d'exemples, puisque tu les as économisés pour tenir dans le temps. Est-ce que tout de suite quelqu'un veut intervenir, poser des questions, complémenter ou critiquer son analyse? Les références sont très second degré.
Oui, c'est vrai que les références, parce que j'ai travaillé beaucoup plus sur le second degré, mais...
Tu penses que ça irait aussi bien pour le premier?
Des travaux que je connais m'incitent à penser que ça irait pour le premier, mais c'est à vérifier.
D'accord, voilà. Oui? Alors attends, on va te donner... Alain, on va te donner le micro.
Alain Batz, conseiller pédagogique Annecy. Juste un petit mot pour te rassurer... Anne-Marie, c'est qu'on se retrouve complètement dans les quatre désorganisateurs que vous nous avez décrits. Je dirais que en autant, je dirais les, enfin, et puis je suis pas tout seul, il y en a d'autres qui acquiescent. En autant, je dirais quelques mots. J'avais des exemples qui venaient derrière, hein, donc il n'y a pas de souci.
Oui, tu me rassures pas en disant ça. ce que je voulais te faire dire, c'est que le premier degré n'est pas plus du tout à l'abri de ce qui a paru à un moment donné comme étant une spécificité de la crise du collège et des ados, puisqu'on a longtemps eu des analyses de ce type-là. C'est plus vrai.
Oui, du même regard, je renforcerai ce qui vient d'être dit. La mise en œuvre des 4 jours et des heures de soutien est un point critique pour nos collègues du premier degré, et on est en plein dans cette démarche d'analyse par les organisateurs. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez, si vous le voulez, sur l'intérêt d'approcher le travail enseignant par les épreuves. Parce qu'hier, bien, on a bien vu comment l'organisateur pouvait nous permettre de comprendre. Là, vous prêchez pour une autre paroisse. J'aimerais bien que vous approfondissiez cette analyse.
Alors, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le monde social ne peut pas vivre en permanence dans la désorganisation, le désordre, la confrontation et le débat permanent. Donc nous trouvons en permanence des conventions qui nous permettent d'agir à moindre frais. On sait par exemple que vous êtes assis derrière des tables, que moi je suis assise là, que d'un seul coup on va pas tous se mettre à sauter au milieu dans la mesure où c'est pas une classe de maternelle ou de choses comme ça. Par contre, imaginons qu'il y ait une situation un peu exceptionnelle qui se passe et tout à coup qui fasse épreuve au sens qui sorte du courant habituel.
Un vrai incendie, voilà, et pas un simulé comme hier matin.
Ah, vous avez eu droit à ça.
On a eu un incendie simulé. Donc on a été très calme on a attendu, on s'est caillé de froid, mais c'était pas grave. Mais c'était pas un vrai incendie. Oui, oui. Voilà. Alors mettons.
Donc dans ce cas-là, me replace dans le domaine professionnel, quand il y a une nouvelle injonction, 4 jours à l'école primaire, organiser les 4 jours et les heures de soutien. D'un seul coup, on ne peut plus être dans les accords qui avaient été passés précédemment. Des accords qui sont souvent sédimentés, dont on a oublié l'origine, mais qui sont inscrits dans des dispositifs, dans des objets, dans une répartition du temps, dans une répartition des salles. Et ces accords-là, d'un seul coup, sont remis en cause parce qu'il va falloir discuter de comment on organise les 4 jours, comment on organise le soutien. Et ces accords sociaux qui permettent au social de tenir ne tiennent plus. Et c'est à ce moment-là que Luc Boltanski explique qu'on rentre dans un autre univers, en quelque sorte, qui est l'univers de la confrontation et de la justification. Dans la mesure où il faut trouver un nouvel accord pour stabiliser la situation, chacun va avancer son point de vue, son argumentaire, pour défendre la solution qu'il préconise. Donc c'est ce travail de redéfinition de la situation qui se fait à l'occasion de ces épreuves, ou qui peut s'éviter, parce qu'il y a des stratégies d'évitement aussi, bien sûr. Mais quand il se fait, les argumentaires, et c'est l'autre aspect de la théorie de Boltanski, ces argumentaires ne sont pas seulement référés à la situation locale, par exemple, mais sont toujours référés à des principes politiques plus vastes. Des principes de référence, comme on dit, plus vastes. Et qui eux-mêmes sous-entendent une conception de la justice. Est-ce que l'école juste va être celle dans laquelle on vise une efficacité avec des résultats aux examens? Est-ce qu'une école juste est celle qui vise plutôt la prise en compte de la personnalité de l'enfant, son accompagnement? Est-ce qu'une école juste, c'est plutôt celle qui vise le fait de créer une image positive pour l'établissement ou l'école? Ou est-ce que c'est une école juste va être, au contraire, dans une logique de marché, de concurrence, il faut se placer sur le marché de l'enseignement? Donc ces épreuves sont à double facette. Boltanski a surtout étudié les dimensions, j'ai envie de dire, argumentatives et objectives des épreuves. Mais il n'a pas méconnu, et il en parle dans certains ouvrages, des dimensions aussi subjectives. Mm-hmm. Et c'est là où on... Voilà, notamment dans les accidents du travail. Et où on rejoint le travail fait notamment par l'équipe de Christophe Dejour au CNAM sur la psychodynamie, à partir de la psychodynamique du travail, ou du côté de la clinique de l'activité par Yves Clos, et qui montre comment ces épreuves sont source de redéfinition, de règles pour travailler.
Mais aussi de pathologie,
exactement. Et puisque ça a un coût subjectif important, ça a un coût en temps, bien sûr, mais un coût subjectif aussi, parce que dans l'argumentation, on se met soi en question aussi. C'est pas seulement, il y a bien sûr l'argumentation rationnelle, mais il y a aussi une part d'engagement de la subjectivité qui peut être malmenée dans ces moments-là. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus clair? Bon, il y a d'autres aspects, mais je vais être plus simple.
Encore.
Oui, bonjour, Christine Montiori. Donc, je travaille dans un laboratoire d'Université de Provence et en parallèle, je suis chargée de mission au CRDP de Marseille et chaque année, on organise une rencontre sur le multimédia éducatif. Je vous parle de ça pour trois raisons. La première, lorsque vous parlez de la désorganisation, organiser de l'organisation, vous avez parlé du partage de ressources, de l'injonction à travailler collectivement. Ça c'est dans un premier point, et vous parlez de logique, d'efficacité, de plus en plus d'enseignants. Donc moi je travaille effectivement aussi dans le secondaire, notamment dans les lycées professionnels, et il y a un partage de ressources, des ressources en ligne. Quels sont les types de ressources qui sont crédibles, efficaces? Donc il y a un partage de ressources, donc il y a cette remise en question vis-à-vis de l'enseignant. Est-ce qu'on doit partager sur un site? Est-ce qu'on doit récupérer? Donc il y a une remise en soi, une remise en question. Ce qui revient à un moment donné à me dire, ce que vous avez dit, ce qui domine de l'expérience professionnelle, c'est le sentiment de perte de pouvoir d'agir lié aussi à l'échec de l'élève. Donc il y a une autre question, c'est face, mon dada c'est l'usage des outils informatiques, c'est face effectivement à l'outil qui est devenu un instrument en classe, l'enseignant aussi cette fonction de ce que vous avez dit, c'est la perte de pouvoir et qu'il est mis mal à l'aise aussi. Et je viendrai sur la troisième question. Vous avez dit il y a une injonction aussi à travailler sur une logique de projet, sur une grande autonomie des individus. Alors bon, effectivement, c'est un travail de recherche sur lequel j'avais longuement travaillé. On demande de plus en plus, notamment dans le socle des compétences de l'autonomie à des élèves, mais si on parle d'autonomie des élèves, on parle aussi de l'autonomie de l'enseignant, donc ça remet en question qu'est-ce que c'est? Il y a une polysémie là-dessus. Et effectivement, de quelle manière on va donner cette autonomie à l'élève? Comment former à l'autonomie? C'est quelque chose qui est demandé par les injonctions institutionnelles, et à la fois l'enseignant est aussi démuni. Donc dans les trois désorganisateurs organisés, c'est vrai que je reviens sur ce que vous disiez dans l'aspect partage de ressources et aussi l'aspect collectif, parce que si on demande ces exigences, eh bien comment l'enseignant peut-il travailler tout seul? Mm-hmm. Merci aussi pour votre intervention.
Mm-hmm. Merci. Oui, et je voudrais que tu précises dans la question des partages, parce que c'est quelque chose que tu envisages dans le livre, sur les problèmes des différences d'âge et d'expérience à l'intérieur des établissements.
Alors, quand je dis les ressources, c'est dans un sens très très général. Ce ne sont pas les ressources matérielles seulement, ce sont les ressources d'expérience et tout un tas de types de ressources. Les ressources sont à la fois quelque chose qui est de l'ordre du déjà-là et quelque chose qui est de l'ordre de la construction permanente. Donc la question, enfin là où il y a problème, c'est quand il n'y a plus adéquation entre les ressources déjà-là et la situation, justement sous l'effet parfois des désorganisateurs de l'activité. Alors, c'est un petit peu autre chose ce dont vous parliez, c'est-à-dire ce sont des ressources implantées par l'extérieur. Bien sûr, mais alignées.
Ce ne sont pas eux qui les ont.
Initialement, ce sont des ressources. C'est une volonté institutionnelle de développer les TICE dans l'éducation, pour des raisons là aussi très contradictoires d'ailleurs. Et au départ, ce ne sont pas les enseignants qui ont réclamé la généralisation de l'utilisation des TICE. Dans certaines disciplines, bien sûr, ils étaient beaucoup plus
demandeurs,
et puis ils avaient déjà des compétences professionnelles par rapport à ça. Dans la plupart des autres, non. Donc là, c'est un petit peu différent. Je dirais, là, actuellement, c'est de l'ordre de la ressource à la fois déjà là et de la ressource à construire. Donc la question du partage de ces ressources, ça peut se situer dans la dynamique de la construction, effectivement, des ressources. Alors pour ce qui est des différences d'attitude selon les âges, ou selon les âges dans le métier plutôt, je dirais, nous n'avons pas approfondi ce point, mais je pense que Frédéric sera mieux placé que moi pour en parler. Ce que nous avons vu, et je m'en tiendrai à ça, c'est malgré tout le fait que les, entre guillemets, jeunes enseignants, au sens de débutants plutôt, quel que soit leur âge, se mettent très très vite à la norme de l'établissement.
Voilà.
Qu'ils viennent de l'UFM ou pas, mais c'est assez frappant sur le fait qu'en gros, en une année, ils se sont mis à la norme de l'établissement. Pour tout un tas de raisons.
Le fameux effet toiture dont parlait ce matin Dominique Buchon.
Ah
ouais,
oui.
C'est ça. Ils prennent la couleur de l'établissement où ils sont. En revanche, j'ai été surprise que tu dises sur la façon dont, quand on a des épreuves, on doit parler et argumenter. Tu dis aussi qu'il y a des épreuves qui sont telles que les gens n'en disent rien.
Ah bah bien sûr, oui.
Et que de la même manière, où on réussit,
bien sûr.
On a honte de se vanter de bien savoir faire. Enfin,
tout à fait.
Cette dimension-là.
Je n'en ai pas parlé effectivement, mais la première réaction en situation d'épreuve, c'est de le garder pour soi. Surtout quand c'est une épreuve qui est vécue sur le mode individuel. Quand c'est une réforme comme organiser les 4 jours, organiser le soutien, là, on ne peut plus le vivre seulement comme une épreuve individuelle. Donc c'est pour ça que je répondais surtout à cette dimension. Mais c'est sûr que l'épreuve individuelle, sauf quand il existe des collectifs de travail très soudés, c'est d'abord une épreuve individuelle et qui est vécue sur ce mode-là et sur le mode de la défaillance.
Personnelle. Avant qu'on se rende compte que tout le monde est défaillant.
Bien sûr, tout à fait. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là pour clore. Donc, je vous renvoie pour tout ce qui est... Vous voyez, nous a épargné la méthodologie, etc. Mais tout est très bien expliqué, donc, dans « Travail enseignant ». Et puis, dans le dernier livre publié avec Christophe et Lou, « La souffrance des enseignants au travail ». Et l'autre sur...
C'est « La souffrance des enseignants, une approche sociologique du travail enseignant ».
Une approche sociologique. Hein. Et puis l'autre sur les lycées professionnels s'appelle...
Les enseignants de lycées professionnels face aux réformes, tensions et ajustements dans le travail.
Voilà. Et les deux se lisent comme des romans. qui finissent pas très bien ou une fin ouverte. Voilà.
Bien, merci.